시기다 긴깡껑깡구다 시기다 긴깡껑깡구다
Laurent Segui,
Gérald Tenenbaum,
Un livre dans la poche. Au jeune bachelier hésitant entre Hippocagne et maths sup, sa mère avait déclaré « Choisis les maths, la littérature, tu pourras toujours y revenir ». Suivant l'adage « Il faut toujours écouter sa mère », ça n'est pas l'auteur que nous recevons aujourd'hui qui dira le contraire, il devient alors polytechnicien, brillant chercheur, spécialiste des nombres premiers et donc romancier. Ce chercheur d'envergure internationale dans le domaine de la théorie des nombres officie à l'université Henri Poincaré de Nancy et a déjà publié plusieurs ouvrages scientifiques de recherche et de vulgarisation en France et à l'étranger. Il s'éloigne peu à peu de la science pure en publiant une pièce de théâtre et plusieurs romans, chaudement accueillis d'ailleurs par la critique. Sur sa lancée, et comme visiblement il y prend goût, il vient nous présenter ce matin son quatrième roman qui ressuscite lumineusement les années 50 et nous plonge dans l'intimité de cette France encore traumatisée qui bascule d'une guerre à l'autre servie par une magnifique écriture. Tout ceci vous a mis l'eau à la bouche? Ne bougez pas, l'auteur est là pour nous en dévoiler encore un petit peu plus. Bonjour Gérald Tenenbaum.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur France Inter pour nous parler de ce livre, L'Ordre des Jours, je le disais, aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui se déroule donc après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cette période pour entrer dans le vif du sujet?
Eh bien, c'est une période dont on a peu parlé et j'avais envie d'explorer cette période de l'après, qui était en France, en Europe, la période de la reconstruction.
C'est vrai qu'on s'intéresse souvent à la période 39-45, mais rarement à ce qui s'est passé juste après.
Oui, effectivement. Et justement, cette période est intéressante parce que c'est à la fois la période où les gens ont su et en même temps où ils ont eu envie d'oublier. Et puis, on a eu toute une vie à reconstruire, autre chose à faire. Et donc, il y a eu un certain nombre de personnes qui n'ont pas eu la parole à cette époque-là. Il y a eu les témoins, il y a eu les victimes qui ont parlé plus tard. Et puis, il y a eu les enfants. Et ceux-là, finalement, n'ont jamais parlé. Et ce livre, c'est un petit peu une tentative de leur donner la parole.
Sans trop en dévoiler, on peut dire un mot de l'histoire?
Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui attend le retour de son père, qui a été déporté à Auschwitz et dont on apprendra au cours de l'histoire qu'il est effectivement sorti des camps, mais il n'est pas rentré.
On sent bien quand même, quand on vous lit, qu'on est dans une époque charnière, très complexe également. C'est lourd à écrire, cette ambiance, c'est un peu pesant, on le ressent soi-même quand on est l'auteur.
Disons que moi, j'ai revisité une époque qui était une époque de ma petite enfance. Donc bon, j'ai fait un gros travail de documentation. C'est une époque pour moi qui était surtout une époque de silence. C'est-à-dire que dans ma famille, c'est comment dire, les cadavres dans les placards, on n'en parlait pas.
Pourquoi?
Et donc, pourquoi ça? Je ne sais pas pourquoi.
Enfin,
il fallait oublier. C'était quelque chose qui a été enterré. Et donc, au cours de mes pérégrinations à l'âge adulte, que j'ai appris finalement un certain nombre de choses qui se sont retrouvées dans ce livre.
Et des révélations qui vous ont poussé à écrire, du coup, à pousser plus loin sur cette époque.
Oui, qui m'ont donné envie d'imaginer. Imaginez aussi ce qu'aurait pu être l'attitude de personnes face à ce silence, face à cet oubli, de personnes qui étaient en rupture par rapport à leur époque. Et j'ai eu envie d'imaginer finalement des héros dans le sens où ils n'acceptent pas le destin tel qu'il leur est donné. Ils veulent en savoir plus, ils veulent gérer finalement l'absence par l'action.
Vous pensez que cette période est menacée d'oubli? On parle déjà de 39-45, dont les survivants sont de moins en moins nombreux.
Les survivants sont de moins en moins nombreux, bien sûr. Disons, ces événements sont, comme on dit, tombés historiques, c'est-à-dire que bon, la parole des témoins est relayée par celle des historiens, mais il y a justement toute une frange de la population qui n'a jamais eu la parole, ce sont les enfants de déportés, que ce soit les enfants de déportés qui sont revenus ou les enfants de déportés qui ne sont pas revenus. Ceux-là, ils n'ont pas pu parler dans les années de l'après-guerre parce qu'on ne parlait pas, je veux dire. Ensuite, les témoins se sont mis à parler dans les années, à la fin des années 80, dans les années 90, et les enfants n'ont toujours pas parlé. Donc ceux-là ont un destin particulier que j'ai eu envie de retranscrire dans ce livre.
Quand on se lance dans ce genre d'écriture, j'imagine que c'est important de bien se documenter.
Oui, alors le travail de documentation a été très très important et j'avais le projet de ce livre depuis au moins une quinzaine d'années et il me fallait le temps justement de faire tout ce travail de documentation des années 50, retrouver la littérature, les automobiles, la politique, les vêtements, les banilons.
Oui, il faut que tout soit vrai en fait.
Oui, c'est ça, voilà, il faut qu'on soit vraiment dans les années 50.
Quand on est autant impliqué et surtout avec autant de documentation, est-ce que ça laisse encore quand même une part romantisme, à la romance, j'aurais tendance à dire.
Oh oui, bien sûr,
à l'écriture,
oui,
imaginaire.
Bah c'est, justement, j'ai imaginé, disons, un scénario qui, au fond, dans sa structure même, qui est la problématique de la transmission, c'est-à-dire que c'est une histoire dans laquelle on passe de que s'est-il passé à que va-t-il se passer. Et finalement, c'est tout le problème de la transmission. Que s'est-il passé et qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Mais l'histoire est extrêmement, effectivement, beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements, beaucoup de mystères.
Il y a un canevas très précis également.
Oui, il y a un canevas très précis qui était écrit au départ, bon, qui a été un petit peu modifié au cours de l'écriture, mais essentiellement, les points de repère étaient là et le sont restés.
Vous avez de me demander à des historiens, à des personnes qui seraient des spécialistes de cette époque, s'il n'y avait pas d'erreurs, de grosses erreurs.
Non, mais j'ai lu des livres, j'ai lu des livres d'histoire, et puis j'ai pris des avis, mais pas d'historien professionnel, bon, à part celui de mon fils, qui est un futur historien, mais qui m'a beaucoup aidé.
Alors, c'est quand même un grand écart entre votre métier de scientifique, spécialiste des nombres premiers, et votre rôle, votre deuxième métier, si vous préférez, d'écrivain, romancier.
Oui, c'est vrai que j'ai longtemps hésité à l'adolescence entre les deux voies, mais on peut dire, au fond, que les deux activités se rejoignent, parce que les mathématiques, c'est de la recherche de structure, et la littérature, je pense que c'est aussi, bien sûr, ancré dans l'affectif et non pas dans le rationnel, mais c'est aussi de la recherche de structure.
Oui, donc, l'écriture, c'est peut-être moins cérébral, on va dire.
C'est moins cérébral, bien sûr, ça suit l'affectivité, ça suit l'émotion, mais je pense qu'écrire, c'est tout de même plaquer une structure sur un récit, c'est mettre du fond dans la forme.
France Inter, 7h-11h, Laurent Seguy.
Gérald Tenenbaum, auteur de L'Ordre des Jours aux éditions Héloïse d'Ormesson, est notre invité ce matin. Vos personnages attendent le retour d'un proche déporté, on le disait tout à l'heure, pendant la guerre, et vous écrivez du coup sur l'impossible deuil des disparus.
Oui, effectivement, c'est quand dans la vie on perd quelqu'un, on a une dépouille, on a une tombe, il y a des proches qui sont là, donc il y a tout un dispositif qui permet de faire le deuil. Le problème dans les disparus du génocide, c'est que rien de tout cela n'existait et donc le deuil était impossible à faire. Donc il a fallu chercher une voie symbolique pour faire le deuil et c'est effectivement ce que font mes personnages qui décident d'aller jusqu'au bout, quel que soit le coût, et le coût est très élevé, pour réussir à faire ce deuil.
Je reviens à vos personnages, Gérald Tenenbaum. Ils ont soif de revanche également, de vengeance presque même.
Il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la vengeance, mais qui n'est pas vraiment une vengeance.
Ah, c'est pour ça que j'hésitais sur le terme. Mais...
Puis on est dans le domaine du refus. On est dans le domaine du refus du destin, et puis justement d'aller fabriquer ce deuil symbolique. Alors finalement, qu'est-ce qui reste des victimes quand les victimes ont disparu, quand elles sont parties en fumée? Eh bien, il reste les bourreaux. Et c'est jusque dans la prunelle des bourreaux qu'on va aller chercher ce deuil symbolique.
On s'aperçoit d'ailleurs en vous lisant que la lutte s'est poursuivie longtemps après la guerre.
Oui, alors ça c'est effectivement un des éléments historiques qui est peu connu et dont on parle dans le livre.
C'est étonnant d'ailleurs.
Oui, des réseaux de juifs qui au départ étaient dans le ghetto de Vilnius et comme dans le ghetto de Varsovie qui ont choisi de mourir debout, certains ont survécu et certains ont reconstitué leur réseau après la guerre pour, alors là, dans un véritable motif de vengeance.
Là on est dans la vengeance pure.
Voilà, on est dans la vengeance pure.
Punir les bureaux.
Qui n'est pas la voie que choisit l'héroïne du roman, mais elle subit cette influence de ne pas en rester là, de toujours aller plus loin, quel que soit le prix que ça peut comporter.
Cela dit, en suivant vos personnages, on s'aperçoit quand même qu'au fil de l'enquête, les découvertes sont terribles et qu'ils ne sont pas forcément préparés à ça. On ne s'attend pas à découvrir des choses pareilles.
Bien sûr, parce qu'au fil des années qui passent, dans les années, la fin des années 40, les années 50, donc bon, on imagine un destin standard et finalement ce que cette héroïne Solange découvre c'est que l'histoire de son père n'a pas été un destin standard et donc elle décide justement d'avancer quoi qu'il lui en coûte.
L'ordre des jours, pourquoi ce titre ?
Eh bien, c'est la succession des jours, c'est l'ordre des choses, c'est-à-dire c'est la manière dont les choses avancent. Et cet ordre des jours est totalement chamboulé, il n'existe plus. Et donc, cette héroïne tente de remettre de l'ordre dans les jours.
Dans sa vie, voilà, dans la disparition de son père, chronologiquement qui plus est.
C'est ça. Voilà.
Quand on écrit un tel livre, est-ce qu'on ressent de l'empathie pour ces personnages ? Je pense à la jeune fille notamment.
à la jeune fille, mais aussi au personnage de Simon, qui est l'homme qu'elle rencontre, au personnage de Max, qui est le déporté qui revient d'une certaine manière à la place de son père. Oui, j'ai beaucoup aimé mes personnages. Je pense que je n'aurais pas pu écrire ce livre s'il n'y avait pas eu beaucoup d'amour et d'empathie pour ces personnages.
Justement, Gérald de Tennenbaum, quand on écrit ce genre d'ouvrage, est-ce qu'on souhaite faire passer un message ?
Oui, un message.
Un message, pas, c'est un bien grand mot, mais
c'est pas un message philosophique ni un message politique, mais c'est d'imaginer ce que des gens qui ont vécu cette époque auraient pu être. Ce sont des personnages de romans, ce sont pas des personnages historiques. Le fond est historique, et j'ai un petit peu rêvé ce qu'auraient pu être des héros modernes. Finalement, ce sont des personnages qui poursuivent une quête, un peu comme dans les chansons de gestes du Moyen-Âge. Et je me suis un peu demandé jusqu'où pouvait aller cette quête chez des gens qui auraient vécu cette époque.
Comment vous ressortez de cette expérience, de cette époque, après avoir écrit sur l'après-guerre ?
Pour l'instant, je n'en suis pas encore vraiment sorti. C'est vrai que j'ai un peu tendance à me repenser dans cette époque de l'après-guerre, qu'encore une fois, je n'ai vécu qu'en étant très très jeune. J'essaye de tirer un peu les fils de cette époque dans notre époque actuelle. Cette époque de la reconstruction, de l'oubli, de l'amnésie, en Israël, de la construction, de la guerre d'Indochine, de la manière dont on a basculé de la guerre d'Indochine à la guerre d'Algérie.
Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on passe d'une guerre à une autre.
Oui, c'est quand même extraordinaire de penser que dans une période de 20 ans, il y a eu 4 guerres et que la population a vécu ces 4 guerres tout en ayant une soif extraordinaire de vivre, de se reconstruire, d'avancer, d'aller vite. C'était quand même la période des 30 glorieuses au point de vue de l'économie. C'était une période où les choses étaient très dynamiques.
Et c'est assez paradoxal.
Tout à fait, oui. Justement, c'est ce paradoxe qui m'a intéressé, de voir comment ces personnages qui sont dans une époque de reconstruction et qui, eux, en fait, vivent la destruction. Alors, ils sont complètement... ils sont en porte-à-faux par rapport à leur époque.
Gérald de Tennenbaum, L'Ordre des Jours aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci beaucoup, Gérald de Tennenbaum. Une bonne rentrée, du coup, en septembre. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre
invitation.
Merci
à vous.